Il vous donnerait aussi les informations. À tout à l'heure, Laetitia. Merci beaucoup. Révéler son homosexualité, est-ce facile? Non, à l'évidence, puisque certains parents refusent l'idée que leur enfant puisse être homosexuel. Avoir un fils ou une fille homo, assumer son amour des filles quand on est une fille. C'est ce matin dans Service Public avec vos appels et vos témoignages au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Nous sommes Service Public FI. Lol, aujourd'hui, la France devient-elle raciste, se demande le Parisien en couverture suite à une tribune d'Harry Roselmack parue dans Le Monde d'hier. Des inhibitions disparaissent, des digues tombent, estime Christiane Taubira dans Libération. C'est effectivement un sentiment que nous sommes beaucoup à partager, notamment à la lecture des tweets, des mails ou de certains forums. Et cependant, ce racisme-là est bien différent du racisme des années 30. D'abord parce que la culture a pris la place de la race dans la majorité de ses discours. Le racisme biologisant cher au 19e siècle s'est effacé au profit d'une grille de lecture culturaliste de la diversité humaine. Les Roms, les musulmans, les juifs deviendraient inassimilables, non en raison de leur appartenance raciale supposée, mais à cause de leurs différences culturelles. Et ce n'est probablement pas un hasard si ces discours se diffusent précisément au moment où les différences culturelles s'atténuent, comme si ce regain raciste était plus encore mixophobe que xénophobe, plus une peur du mélange qu'une peur de l'étranger. Enfin, à la différence des années 30, le racisme ne constitue plus une utopie globale, une religion séculière, selon la notion forgée par Raymond Aron. Dans le nazisme, forme pure du racisme, le refus de l'autre était une religion. C'est en son nom que l'on interdisait le sacrilège, le mélange des races, et que l'on incitait au sacrifice. Mais aujourd'hui, même parmi les racistes, bien peu tiennent le refus de l'autre pour une religion. Jadis, les racistes étaient des croyants, aujourd'hui ce sont des laïcs, d'où nos difficultés pour tenter de les convertir. Et dans la seconde partie de l'émission, celle connue sous le qualificatif de Grand Bazar, vous aurez tout d'abord droit au mot du psy Serge Effèze qui s'intéresse cette semaine au statut de beaux-parents.
Maman, elle sort de là. Non mais putain, là, il est dans les chiottes depuis 20 minutes.
Oh, ça va pas les cris là.
Bon, écoute, à ta place, j'attends
de... Mais t'es pas à ma place, c'est moi sa mère, c'est moi qui prends les décisions pour lui. Toi, tu t'occupes de tes enfants et moi, je m'occupe des miens.
Quant à Alexandre Lazerge, notre homme objet journaliste à GQ, il nous présentera le placard 2.0, celui qui permet plus facilement de sortir du placard, de faire son coming out.
Je prenais un pot, c'est arrivé très souvent, avec une collègue qui parlait de ses amours hétéros, de ses enfants. Moi, je me disais, je vais pas me taire, j'ai une vie. C'est suspect de pas parler de ma vie. Je me souviens très bien de m'être dit comment faire, parce que c'était pas facile quand même. Et je prenais mon courage à deux mains et je disais, moi j'ai pas le même vécu, moi je vis avec une femme, ou j'ai une amie. Et les gens étaient abasourdis, ils s'en doutaient pas, je le portais pas sur moi spécialement. J'ai étonné beaucoup de gens comme ça. Ah bon?
Un extrait du film Les Invisibles de Sébastien Lipschitz. Et dans l'immédiat, voici notre débat. Être homosexuel, avoir un enfant homosexuel, faire son coming out.
Hein, pourquoi tu ramènes jamais les filles?
Bon, je crois que vous comprenez pas très bien. Je vais donc faire mon coming out.
Ah bon? D'accord. Ah d'accord, oui, oui.
Je suis homosexuel.
Ah bon, d'accord, oui, oui.
Oui, oui.
Qui ça?
Moi, j'aime les garçons.
Yeah. Mais dis pas que tu es homosexuel.
Me dis
pas ça.
C'est ça que...
Je viens de le dire.
M'en douter.
On est déçus une fois de plus.
On est naïf que j'étais.
Une fois de plus, on est déçus avec toi. Une fois de plus.
Service public. Guillaume Herner.
Et pour parler du coming out, de la sortie du placard, je suis tout d'abord en compagnie du psy du mercredi, Serge Effèze. Bonjour Serge.
Bonjour.
Et puis de deux femmes qui ont écrit deux livres dans des registres très différents, deux très bons livres. Tout d'abord, Natacha Chetcuti, bonjour.
Bonjour.
Natacha Chetcuti, vous êtes sociologue, membre du laboratoire GTM Crespa du CNRS à l'Université Paris 8 et vous publié, ou plutôt c'est une republication en poche, « Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité, représentation de soi » chez Payot. Et puis Anna Guillon, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Moi, homophobe, le jour où mon fils m'a révélé son homosexualité ». C'est un témoignage, c'est votre témoignage de mère aux éditions Michalon. Anna Guillon, qu'est-ce qui s'est produit lorsque votre fils vous a dit, ou plutôt lorsque vous avez compris qu'il était homosexuel ?
Un monde s'est écroulé, un monde d'espérance, de projection, de futur commun que j'avais déposé sur mon aîné, mon fils, lorsque j'ai découvert, lorsqu'il m'a mise en fait devant le fait accompli, puisqu'il n'avait pas d'autre choix que de le faire, parce qu'il a tenté au préalable de me le faire savoir. Et je suis restée absolument dans le déni, je ne voulais pas le savoir, je ne voulais pas le voir. Un monde s'est écroulé. Oui.
Donc la scène se déroule lors d'un déjeuner, votre fils va chercher un camarade à la gare et vous vous rendez compte que ce camarade est en réalité son petit ami. Et là, à la fois votre époux et puis vous-même, vous êtes effondré parce que vous refusez l'homosexualité de votre fils.
Oui, ça fait partie. En fait, ça a été de l'ordre de l'anormalité. Pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable. Ça a été un choc émotionnel extraordinaire que je ne pouvais absolument pas du tout contrôler. Une peur énorme du regard des autres qui allait poser en fait un jugement sur moi dans mon rôle de mère par rapport à l'homosexualité de mon fils. En fait, l'homosexualité, moi, je ne l'avais jamais envisagée dans mes proches. Vu de loin, c'était quelque chose de tout à fait banal.
Alors même que vous racontez qu'un grand nombre d'indices, finalement, vous auraient permis de comprendre que votre fils était homosexuel depuis très longtemps.
Oui, depuis quand, je ne le sais pas exactement. Je ne sais pas si lui peut le dire véritablement, à quel moment ça se découvre. Mais toujours est-il que oui, il y a eu des signes. Oui, il y a eu des moments où j'aurais pu me poser la question ouvertement. Mais chaque fois, j'ai refusé cette évidence. J'ai refusé de l'aborder ne serait-ce qu'un tout petit peu parce que ça... Non, ça aurait été déjà un pas vers l'acceptation et il en était hors de question.
Et les deux hommes avec qui vous avez été, donc cet homme qui était votre époux au moment où votre fils vous a révélé son homosexualité, et puis son père biologique, oui. Ces deux hommes avaient au moins un point commun, c'est qu'ils refusaient l'homosexualité, qu'ils ne voulaient surtout pas avoir un fils homosexuel.
Oui, mais oui, je pense que comme moi, ils avaient un espoir aussi que ce soit un homme, un vrai, un dur, un tatoué, comme aux normes de la société actuelle, qu'il n'était pas question d'envisager une femmelette, quelqu'un qui allait effectivement ne pas être dans la prolongation de leur image.
Alors, vous racontez dans ce livre, Moi, homophobe, la manière dont vous avez pu vous réconcilier avec votre fils et finalement accepter son homosexualité et même devenir présidente de l'association homogène qui lutte contre toutes les formes de discrimination et notamment, évidemment, contre le refus de l'homosexualité.
Alors, c'est mon fils qui est président de l'association homogène. Moi, je suis référente, c'est un bien grand mot, du groupe de parole, justement, pour aider les parents comme moi qui ont du mal avec le coming out de leur enfant.
Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de difficultés avec l'homosexualité de
absolument,
votre
non, je n'en ai plus aucune. Pour moi, je dirais que c'est quelque chose de... qui fait partie du quotidien. Je ne le regarde plus, c'est complètement intégré comme quelque chose de banal.
Natacha, vous êtes sociologue. Est-ce que le témoignage d'Anna Guillon, son témoignage de mère refusant l'homosexualité de son fils, est un témoignage commun parmi les différents témoignages que vous avez recueillis?
Ben oui, ce que vous dites, il y a une phrase que je trouve intéressante quand vous dites « j'avais peur du jugement, peur au fond de ne pas avoir respecté ou ne contredire mon rôle de mère ». Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est très présent dans toutes les trajectoires. Moi, j'ai pu spécifiquement travailler sur les trajectoires lesbiennes, mais ça renvoie à quoi? Je trouve c'est l'idée que, enfin, dans nos sociétés encore et malgré les lois sur l'égalité hommes-femmes, etc., l'éducation repose en grande partie sur les mères, donc sur les femmes, et donc donc elles ont la sensation effectivement d'avoir raté quelque chose du côté de l'éducation, d'où une culpabilité plus grande et aussi un niveau d'acceptation, on va dire, moins grand du côté des mères que du côté des pères dans les trajectoires.
Est-ce que se dire lesbienne, c'est plus compliqué, Natacha Hachette-Cutty, que de se dire gay ?
Je pense que ça ne se présente pas de la même manière. Autant pour les gays que pour les lesbiennes, il y a une présomption à l'hétérosexualité comme norme de sexualité pour tout le monde. Mais pour les lesbiennes, la difficulté, contrairement aux gays, tout à l'heure vous parliez de signes. Ils sont contestables, hein, mais les signes de visibilité pour les gays sont beaucoup plus présents dans les scènes culturelles, dans les scènes médiatiques, cinématographiques. Par exemple, l'idée de la féminité qui serait un signe d'homosexualité masculine. Alors que pour les lesbiennes, elles restent invisibles et donc il y a une difficulté à penser la sexualité autonome de femmes qui ne se définissent pas dans l'hétérosexualité. J'en veux pour au moins deux exemples. Si vous tapez sur Internet, sur Google, si vous tapez le mot lesbienne ou sexualité lesbienne, déjà vous trouvez très peu d'entrées par rapport aux entrées gays. Et en plus, celles que vous trouvez font référence en grande majorité aux sites pornographiques à destination masculine. Alors que pour les gays, ça renvoie automatiquement aux associations, aux recommandations VIH, etc. Donc une plus grande invisibilité.
Une plus grande invisibilité, mais dans le même temps, puisque vous dites que lorsque vous tapez le mot lesbienne, cela renvoie finalement à des fantasmes qui sont des fantasmes d'hétérosexuels. Est-ce que ça ne signifie pas qu'être lesbienne, ce peut être plus facile à assumer, puisque tout le problème est dans ce verbe, qu'être gay ?
Mais la difficulté, c'est comment se reconnaître ? Quand la relation entre femmes est perçue soit à l'adolescence comme au fond de l'ordre de la relation platonique, que ça va passer, que voilà, c'est un stade, ou alors que ça renvoie, et ça c'est dans les témoignages, je l'ai dit très souvent, à un échec de l'hétérosexualité, ce qui est moins courant du côté des trajectoires gays, soit simplement l'idée que c'est un penchant sexuel possible, notamment pour les femmes hétérosexuelles. Et ça renvoie, par exemple, aux sexualités échangistes. Donc, c'est là la difficulté. Et après, c'est se réapproprier un terme, le terme lesbienne, qui n'est pas un terme simple, parce qu'il renvoie encore à une terminologie, soit effectivement de la pornographie, soit de l'insulte. Alors que le terme gay ne renvoie pas, le terme qui renvoie, c'est le terme PD, alors qu'il est dans le langage courant.
Mais l'équivalent du terme PD, c'est le terme de Gouine, et le terme de Gouine, il a une signification politique, Natacha Hachette-Cutty.
Aujourd'hui, dans le contexte actuel, chez les jeunes générations, oui. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ans.
Signification politique, ça veut dire que finalement, c'est une manière d'assumer son identité de femme homosexuelle contre une norme hétérosexuelle qui serait dominante.
Voilà, ça renvoie plutôt, on va dire que c'est un terme de l'entre-soi quand même. C'est un terme effectivement de revendication politique comme retournement de l'insulte. Alors que le mot lesbienne, qui était le terme politique dans les années 90, lui, aujourd'hui, est un terme plus institutionnel. On l'a vu sur les récents débats sur le mariage, où on a parlé de mariage, dans le meilleur des cas, gay et lesbien. On n'a pas parlé de mariage pour les Gouines. Donc c'est quand même une terminologie politique de l'entre-soi.
Serge Hefèze, avoir un enfant homosexuel, est-ce qu'aujourd'hui, dans les consultations, parmi les parents que vous suivez en thérapie familiale, est-ce que ça pose encore problème ?
Oh oui, très largement. Et des mamans comme Anna Guion, j'en vois plein. Et des papas aussi, bien évidemment. Et comme vous, Anna, qui l'idée de l'homosexualité, comme ça, pour les autres, ça leur pose pas beaucoup de problèmes. Mais quand il s'agit de son fils ou de sa fille, là, ça pose des problèmes beaucoup plus aigus. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, par rapport à est-ce que c'est plus facile, finalement, pour une jeune lesbienne que pour un jeune gay de faire son coming out, je crois, malgré tout, sans faire de palmarès de la souffrance, que pour les garçons, c'est plus difficile. Parce que justement, pour les filles, il y a quelque chose qui, dans l'imaginaire, est plus admis, quelque chose qui se noie plus facilement dans la bisexualité, quelque chose qui rejoint l'invisibilité de la sexualité féminine. Tandis que pour les garçons, il y a quelque chose de très cru. C'est-à-dire que le garçon, il passe de l'autre côté du mur. Ça veut dire que c'est un traître. C'est un traître à sa condition de garçon. C'est quelqu'un qui devient radicalement étranger aux autres garçons qui le rejettent très fortement parce qu'il y a quelque chose chez la passivité des garçons, chez la féminisation des garçons, quelque chose qui est terrifiant. terrifiant pour les autres garçons. On le voit bien d'ailleurs dans l'insulte. Hein. La pire insulte qu'un garçon fasse à un autre garçon, c'est enculé ou pédé, on le sait bien. Donc il y a quelque chose là de très marquant pour ces garçons-là. Et d'ailleurs, ce sont plutôt les jeunes gays se suicident à l'adolescence 7 à 10 fois plus que les autres, hein, il faut le savoir. C'est beaucoup plus les garçons que les filles.
Anna Guillaume, vous disiez tout à l'heure que finalement, vous acceptiez l'homosexualité pour les autres, mais que c'était pour votre fils qu'elle était plus compliquée à accepter pour vous ?
Oui, ça touche ma propre fibre. Et pour rebondir sur ce que vous dites par rapport aux filles, je me suis posé la question, moi, si ma fille, en fait, m'avait annoncé qu'elle était lesbienne, je pense que j'aurais réagi sûrement... donc, si ça avait été le premier coming out de la famille, je pense que j'aurais été aussi violente dans cette réaction. Hein. Ce sentiment de traîtrise, je l'aurais vécu, je crois, de la même façon.
Vous, comme parent, en classe, les camarades de classe, les camarades d'école...
Oui, par rapport à l'extérieur.
Il y a quelque chose de moins dur, en général, qui se joue pour les filles.
Natacha Hachette-Cutty.
Moi, je sais pas si c'est moins dur, mais en tout cas, c'est différent. Par exemple, pour les filles, ce qu'on voit très bien dans les trajectoires, c'est ce qui est renvoyé, c'est « mais alors, je ne vais pas être grand-mère ». C'est-à-dire, c'est le retour à la question de la sexualité, de la norme reproductive, qu'il n'y a pas dans les trajectoires gays.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'encore, la sexualité... pour les femmes en tout cas, et c'est une des contraintes qui pèsent dans les parcours lesbiens, est encore conditionnée.
Mais la même contrainte peut exister dans les parcours gays.
Oui, mais chez les femmes, les trajectoires femmes, hétérosexuelles d'ailleurs, pas lesbiennes, mais hétérosexuelles, l'idée de la sexualité accomplie, ou plutôt du destin de femme accomplie, ça passe aussi par la maternité. Ce qui n'est pas la même exigence pour les hommes.
On écoute Mesparo et Dominique A for a Day. Et tout de suite après, on continue à évoquer le coming out, la sortie du placard.
I guess I just have a sudden urge to say something that I've never really been able to air in public. So, declaration. I am single.
Un service public sur France Inter consacré au coming out à la sortie du placard, révéler son homosexualité à ses parents, aux autres. En compagnie de notre psy du mercredi, Serge Effès, d'Anna Guillonne, qui publie Moi homophobe aux éditions Michel Onson, témoignage de mère lorsque son fils lui a révélé son homosexualité. Natacha Chetkuti, sociologue, dont l'ouvrage Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité et représentation de soi vient de paraître en poche. Anna Guillonne, ce qui est intéressant, notamment dans votre ouvrage Moi homophobe, c'est que vous expliquez donc que vous avez été extrêmement peiné par la révélation de l'homosexualité de votre fils. Vous avez fait tout un travail pour l'assumer et notamment ce travail auprès d'une psychanalyste vous a révélé quels pouvaient être vos propres déterminismes. Je ne parle pas de ceux en général que pourrait avoir une mère ou un père. Pourquoi vous refusiez ou pourquoi on pouvait comprendre que vous refusiez cette homosexualité? Expliquez-nous ce qui s'est passé chez cette psychanalyste.
Eh bien, en fait, cela m'a ramené à mes propres origines. Et voire même avant, dans l'histoire de la famille, il y a des histoires d'abandon d'hommes hein, dans leur rôle de père, de mari. Et j'avais en fait déposé inconsciemment beaucoup d'espoir sur les épaules de mon fils, hein, ce qui m'a fait comprendre qu'en fait cette colère que j'ai pu ressentir, c'est tout l'espoir que j'avais mis sur ses épaules de réparation, on va dire, du rôle de l'homme, de mon père qui n'a pas été présent, qui ne m'a même pas reconnu. C'était un homme tout
à fait... Vous êtes une enfant illégitime.
Tout à fait illégitime et donc secrète. Et oui, donc j'avais vraiment déposé ce fardeau, hein, puisque c'est vraiment comme ça qu'il l'a porté aussi. Peut-être qu'il l'aurait fait avant, hein, son coming out, mon fils, si je ne lui avais pas inconsciemment déposé tout cela. Oui, donc j'ai compris que tout cela venait du manquement des hommes de ma famille et ça a apaisé grandement mes colères.
Natacha Chetkuti, dans votre ouvrage de sociologie Se dire lesbienne, vous suivez des témoignages donc de lesbiennes. Vous leur demandez en particulier comment elles ont réussi à se déshétérosexualiser. C'est un terme compliqué. Par ce terme, vous signifiez finalement que devenir lesbienne, ça veut dire se débarrasser d'un certain nombre de normes qui sont les normes dominantes, qui sont les normes hétérosexuelles.
Alors, en fait, je leur demande pas si elles se déshétérosexualisent, mais j'ai pu constater par l'analyse des entretiens qu'effectivement, ce processus, pour le dire un peu plus simplement, de séparation, ou en tout cas plutôt de mise à distance des normes de genre et des normes de sexualité passées par ce processus-là. Par exemple, nombre d'entre elles décrivent que, bon, d'abord, il y a tout le travail effectivement de dégagement de la contrainte à l'hétérosexualité. Tout à l'heure, quand vous disiez sur les parcours, par exemple, sur la bisexualité, c'est effectivement très fort. C'est-à-dire que beaucoup de lesbiennes sont dans des parcours non pas exclusifs, contrairement aux trajectoires gays, mais plutôt des parcours progressifs et qui va passer par la définition de la bisexualité vécue ou non. Donc, c'est le premier travail. Et deuxième chose, c'est effectivement, pour nombre d'entre elles, elles me l'ont souvent dit, c'est-à-dire à un moment donné, se définir lesbienne ou se reconnaître comme telle, c'est sortir des normes de genre attendues, par exemple de la féminité, par l'adoption d'un modèle de genre plus androgyne ou alors qui joue sur les tableaux masculinité-féminité ou de reconstruction d'une féminité, mais qui ne s'adresse plus aux hommes. Donc, dans une forme d'émancipation du genre que j'ai nommé effectivement un processus de déshétérosexualisation.
Ça veut dire aussi que, bien souvent, le coming out, il se déroule non pas en disant « je suis lesbienne », mais en disant, par exemple, « je vis avec une femme ».
Alors, effectivement, il est plus facile. Au fond, alors, en général, la première annonce, c'est effectivement dans la famille. Et il est plus facile de dire « je suis avec une femme » que, au fond, d'énoncer une catégorie nominative, qui est de dire « je suis lesbienne », qui là fixe une réalité. Alors que « je vis avec une femme », ça renvoie, ben, ça désexualise, ça renvoie au modèle du couple et à l'idée, au fond, de l'amour universel qui est, lui, aujourd'hui, est au fond très acceptable, notamment dans les classes moyennes à haut capital culturel. On l'a vu là aussi sur les débats médiatiques.
Oui, parce que...
Serge Effès.
ce qui est, je crois, le plus difficile pour les parents qui font la trajectoire que vous avez eue, Anna Guion, c'est pas tellement le fait social de l'homosexualité, mais c'est que quand un garçon ou une fille dit à ses parents « je suis lesbienne » ou « je suis homosexuelle », ils sont obligés de se représenter très brutalement la sexualité de leurs adolescents qu'ils n'ont pas envie de se représenter. Les enfants n'ont pas envie de se représenter la sexualité de leurs parents, les parents n'ont pas envie de se représenter la sexualité des enfants. Même si vous avez une ado qui dort avec son petit copain dans la chambre à côté, vous savez que ça existe, mais vous n'avez pas envie de savoir exactement ce qui se passe. Un garçon qui dit « je suis homosexuel » avec cette consonance de sexualité, on est obligé d'imaginer des scènes sexuelles très crues et très choquantes. Et pour les parents, c'est une véritable irruption dans leur univers intérieur.
Absolument. Et on est rentré aussi dans un monde inconnu également. Dans l'homosexualité, moi je ne pouvais pas me représenter. Le côté, l'aspect sexuel différent, cet inconnu était insupportable parce que je ne la maîtrisais pas. Enfin, quand je dis je ne la maîtrisais pas, elle n'était pas imaginaire. Enfin, c'était absolument difficile pour moi. Ouais.
Et puis, il y a un milieu où les coming out, les sorties du placard sont particulièrement rares et complexes. C'est le milieu sportif. Bonjour, Lenora Krief.
Bonjour, Guillaume.
Vous êtes allé à la rencontre d'un parachutiste sportif et gay pour qu'il vous raconte son expérience personnelle.
Oui, à 35 ans, Frédéric est commercial en informatique. Il a grandi à Livry-Gargan dans le 93. Fils d'un père moniteur de parapente, il a pris goût très jeune au sport extrême et s'est découvert une vocation pour le parachutisme. En 2011, Frédéric avait plus de 350 sauts à son actif. Et avec son équipe, ils sont tout de même arrivés 3e au championnat de France de vol relatif en 2007. Seulement voilà, Frédéric est aussi homosexuel. Et il était loin d'imaginer les réactions que susciterait son orientation sexuelle dans le petit monde du parachutisme. Victime de menaces, il a décidé de mettre entre parenthèses cette passion et se consacre aujourd'hui à d'autres activités sportives dans le milieu associatif. Retour sur des moments douloureux.
Moi, j'ai toujours aimé le côté sensation forte. Donc, dès qu'il y a un grand vide dans un parc d'attraction, je suis le premier à partir. Et après avoir fait un peu de parapente, je me suis dit, il manque quelque chose, il manque un peu d'adrénaline. Je suis tout simplement orienté vers le parachutisme sportif à titre totalement loisir, où j'ai pu commencer en 2005 à faire ce qu'on appelle une progression accélérée en chute. Moi, j'ai fait juste mon petit bonhomme de chemin avec le plus grand plaisir de pouvoir sauter en parachute et sortir d'un avion qui fonctionne encore et juste retenu par un bout de tissu, comme certains le pensent. Voilà.
Et c'est suite aux réactions de vos collègues, de vos camarades, lorsqu'ils ont appris votre homosexualité, que vous avez décidé d'arrêter?
En fait, en 2007, avec mon équipe, nous sommes arrivés 3e au championnat de France en National 2 de vol relatif. Suite à ça, cette équipe a décidé de se passer de moi en évoquant diverses raisons et variées. Ce qui s'est passé après, en 2009-2010, quand je commençais à recevoir des petits messages un peu agaçants, parfois anonymes, du type « fais attention à ton parachute quand tu viens dans mon club ». Donc quand on sait qu'un parachute, c'est ce qui nous permet de rester en vie quand on saute, ça commençait un peu à me faire peur. Et en 2011, avec le dernier message d'un utilisateur Facebook, m'a dit « ne reviens pas dans mon club, sinon ton parachute ne s'ouvrira pas ». J'ai décidé d'arrêter. J'ai revendu tout mon matériel et j'ai arrêté totalement le parachutisme.
Comment ça s'est passé? Vous leur avez fait votre coming out, comme on dit?
Pas du tout, en fait, je n'ai pas fait comme a pu faire d'autres sportifs de très haut niveau comme Amélie Rosmo qui l'a annoncé à la télé. Au fur et à mesure que des amitiés grandissaient, qu'on me posait la question si j'ai une copine, je fais bah non, moi j'ai plutôt un copain. Maintenant, comme on dit, le monde est petit dans le monde du parachutisme, on est peu nombreux à en faire. Ça s'est su très rapidement, certaines personnes l'ont accepté, d'autres personnes ne l'ont pas accepté. Et c'était plus un effet de groupe, plutôt une tension qui était, ou du genre, ah non, ne me touche pas dans le seau, je suis pas comme toi. Ou non, non, ne t'assis pas à côté de moi dans l'avion. Non, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais pourquoi on t'a dit que tu t'es pas dans le seau? Reste au sol, moi j'ai pas toi dans mon seau, et tout comme ça, quoi. C'était un peu, on va dire, c'était poignant, voilà. C'était vraiment poignant, c'était dur à vivre. Avant j'arrivais à enchaîner sur une journée 8 à 10 sauts, à la fin j'en faisais plus que 3 ou 4 parce que je trouvais personne forcément pour faire quelque chose avec moi.
Est-ce que vous avez quelque part anticipé leur réaction?
On anticipe toujours le genre de réaction parce que quand on est homosexuel ou gay, qu'on peut dire plus facilement, on anticipe toujours la réaction des gens, c'est-à-dire qu'on va tester un petit peu, savoir si la personne va le prendre bien ou le prendre mal. Je savais d'ores et déjà, quand je suis arrivé dans le monde du parachute, déjà que c'était un monde de machos, ça l'est toujours, donc forcément le côté gay, c'est un peu compliqué.
Votre expérience de coming out parmi les parachutistes a été assez désastreuse. Et comment ça s'est passé avec vos parents quand vous avez fait le grand saut, justement ?
Tout aussi désastreuse. Maintenant, j'en rigole parce que c'était assez marrant. J'avais 20 ans à l'époque. Je m'étais fait un petit piercing à l'oreille gauche que j'ai actuellement, là, que j'ai gardé depuis en souvenir. Et mon père, quand il a vu ça, il m'a sorti une phrase. Il n'y a que deux catégories de personnes qui peuvent avoir des piercings pour moi. Les pirates et les homosexuels. Il me fait, et jusqu'à preuve du contraire, ton bateau n'est pas garé devant la maison. Et je fais, bah oui papa, je suis désolé, je fais partie des homosexuels. Et mon père a devenu tout rouge, ma mère s'est mise à pleurer. Ma sœur, qui était au courant depuis un an, elle essayait de se faire toute petite pour pas que ça se sache. Donc c'était assez difficile pendant quelques années. Mais après ça s'est tassé, il l'a accepté. Voyant que je m'étais acheté une moto, que j'aimais bien tout ce qui est parachutisme, speedrunning, je faisais du wake, je faisais quand même des sports extrêmes.
La moto, le parachutisme, pour lui c'est signe de virilité finalement.
C'est exactement ça. Ça l'a rassuré en fait.
Service public. Vos témoignages sur franceinter.fr ou au 01 45 24 7000.
Merci pour ce reportage, Lénora Krief. Et dans votre témoignage, Anna Guillonne, moi homophobe, vous révélez que votre fils a été le bouc émissaire de sa classe. Difficile de dire dans quelle mesure c'était lié ou pas à son homosexualité. Mais en tout cas, ce témoignage fait évidemment écho.
Énormément. Énormément, évidemment. Alors j'ai deux sentiments en fait. J'ai celui, de souvenir de toutes les souffrances qu'a enduré mon fils sans qu'il puisse m'en parler, puisqu'il n'avait rien révélé et qu'il a enduré seul dans son coin. Et puis celui d'une mère qui comprend qu'en fait elle n'a pas protégé son enfant à ce moment-là. Et aujourd'hui aussi, lors du coming out, c'est aussi, ça fait partie d'une peur. Justement, de qu'est-ce qu'il va arriver à mon enfant quand les autres vont savoir qu'il est homosexuel. Et cette peur, c'est peur qu'il lui arrive quelque chose, que, voilà, peur de l'homophobie aussi, hein, de tous les actes, les violences, etc. Donc oui, forcément que ça fait un écho énorme.
Natacha, Chetcuti, parmi les lesbiennes que vous avez interrogées, est-ce que la peur justement des réactions des autres fait partie de ce qui empêche évidemment le coming out?
Ben, je trouve que, enfin, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, il y a vraiment des choses à mettre en perspective. Et ce qui est commun là, c'est premièrement la réaction de l'entourage, qui est au fond la peur de la contagion. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le témoignage. C'est ce qu'on lui dit, c'est ah non mais maintenant tu vas plus faire de parachute avec moi. Mais dans les témoignages, par exemple, de lesbiennes qui sont enseignantes, la difficulté à se dire ou pas se dire, c'est au fond le retour de sa peur de la contagion homosexuelle. Ça, c'est tout à fait commun. Et deuxième chose qui est aussi commun à la fois à ce qu'on vient d'entendre et au témoignage que j'ai analysé, c'est quand il parle tout à l'heure d'anticipation de la situation. C'est-à-dire que quand on est lesbienne ou gay, on est toujours dans cette évaluation sociale au quotidien de ce que l'on donne à voir comme signe ou pas du lesbianisme ou de l'homosexualité masculine. Et ça, coming out ou pas coming out, sorti du placard ou pas, et dans la diversité des classes sociales, c'est quelque chose qui revient toujours.
On écoute David Byrne, I Don't Remember, et tout de suite après, on continue sur le coming out.
It's gone.
Service public sur France Inter, faire son coming out, sortir du placard et révéler son homosexualité en compagnie de Serge Effèze, notre psychanalyste, Anna Guillon, qui publie « Moi, homophobe » aux éditions Michalon, Natacha Chetcuti, sociologue, dont l'ouvrage « Se dire lesbienne » est republié en poche chez Payot, et un témoignage d'une jeune fille de 17 ans. Elle nous dit « Mes amis sont au courant que je suis lesbienne, mais pas mes parents, ils sont ouverts. » Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, Serge ?
On peut lui conseiller de prendre son temps et surtout de ne pas se précipiter parce que le moment de l'annonce à la famille est un moment capital par rapport à ce qui va se passer par la suite. C'est vraiment un nœud qu'il s'agit de dénouer. Je crois que c'est plus facile, par exemple, pour des parents d'apprendre que leur fils ou leur fille est amoureux ou amoureuse, est heureux avec quelqu'un et que ce dont il s'agit, c'est d'une relation affective, sexuelle aussi bien sûr, mais avant tout affective. Annoncer quelque chose de sa sexualité à ses parents, il faut être sûr qu'ils sont préparés à ça, qu'ils vont pouvoir l'entendre, quels vont en être les bénéfices. Je crois que chaque jeune fille et chaque jeune homme doit vraiment peser à l'intérieur de lui les avantages de parler et le bon moment pour le faire.
Justement, Joséphine nous dit, et si on ne se décidait pas, si on était ou pas lesbienne, est-ce que ce serait grave, Natacha Chetcuti ?
Est-ce que ce serait grave ? Non.
Est-ce que vous avez rencontré des individus finalement aux identités sexuelles flottantes qui refusaient de manière catégorique de se révéler ? Ou bien est-ce que le fait d'être bisexuel, c'est en soi une identité sexuelle ?
C'est une catégorie sexuelle. Après, c'est vrai que ce que j'ai constaté, c'est que dans les parcours entre 20 et 30 ans, effectivement, du côté des lesbiennes en tout cas, les identités sont beaucoup plus fluctuantes et il faut un certain temps avant de se définir d'une catégorie ou d'une autre. Donc voilà.
Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec un peu, je dirais, l'ouverture des catégories de genre, c'est-à-dire que les masculins et le féminin sont moins tranchés chez les adolescents, il y a quelque chose de plus fluide. Ouais. Aussi chez les garçons, je le constate de plus en plus, il y a des passages bisexuels, il y a une possibilité d'une sexualité qui rentre moins dans une identité immédiatement de gay ou d'homosexuel.
Et puis, nous avons un auditeur au standard, Pascal. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Guillaume.
Nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter.
Bien. Je voulais, oui, un peu partager donner mon témoignage. Moi, je l'ai d'abord annoncé à ma grande sœur quand j'avais 18-19 ans. Donc, c'était au début des années 80. Heureusement, ça s'est bien passé. Mais à l'époque, elle m'avait conseillé de ne pas le dire à mes parents. Et puis, quand même, une dizaine d'années plus tard, après avoir vécu quelques années à Paris, puis à Amsterdam, j'ai eu envie de présenter mon amoureux Hollande à ma famille. Et mal m'en a pris parce que la première réaction de mon père, qui était garagiste dans un petit village au sud de la Bretagne, ça a été « Que vont penser les gens ? On va bien se moquer de nous. » Quant à ma mère, elle a tout de suite pensé malheureusement aux maladies, parce que c'était le début des années 80, donc elle n'osait même pas prononcer le terme de sida, c'était un peu triste. Mais et puis après, bon, il a fallu une bonne année, l'intervention de mes sœurs, pour que mes parents me pardonnent et puissent commencer à faire un peu une sorte de travail de deuil, en fait, je crois. Et
deuil depuis, de quoi?
Ben, le deuil de par exemple de pas avoir de petits enfants, enfin de moi, enfin ils avaient d'autres petits enfants, mais et surtout le deuil d'une sorte de normalité, en fait c'est ça.
C'est
je veux dire, on est de toute façon, moi j'étais catalogué dès le départ comme anormal. Donc
et aujourd'hui comment les choses se déroulent avec vos parents, Pascal?
Bien, enfin, entre-temps, mon père est mort. Je pense qu'il m'a jamais vraiment pardonné, malheureusement. Ma mère, par contre, l'accepte, la finit par vraiment l'accepter complètement. Mes frères et sœurs aussi. Enfin, je pense qu'il y a pas de problème. Bon, il y a encore, j'entends toujours des réactions un peu, disons, un peu de beauf, quoi, les PD par-ci, PD par-là. Mais pour le seul, moi, mon gros problème, c'est depuis le mariage pour tous, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une résurgence d'une sorte d'agressivité, quoi. Un peu comme si on ne nous avait jamais pardonné, jamais accepté, quoi, jamais pardonné les coming out, et Et je trouve qu'à ce niveau-là, par exemple, un film comme La vie d'Adèle, c'est très bien vu de voir le coming out de cette Adèle dans le film, qui est très violent au niveau de ces jeunes adultes, de ces ados à l'école. Moi, ça m'a vraiment marqué, ça m'a ramené des années avant, quoi.
Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage. En tout cas, votre témoignage, Anna Guillonne, moi, homophobe, le jour où votre fils vous a révélé son homosexualité, c'est un témoignage qui montre que l'on peut évoluer. Vous avez très largement évolué par rapport à l'homosexualité de votre fils.
Oui, et j'ai envie de rebondir par rapport au mot « deuil ». Effectivement, c'est un peu comme un deuil d'une relation que j'avais pendant 17 ans avec mon fils, qui d'un seul coup s'arrête parce que je le vois différemment. Et il a fallu que je reconstruise une autre relation. C'est un peu comme si d'un seul coup j'avais un autre individu face à moi. Et donc c'est moi qui reconstruis cette relation.
Un message sur Internet pour vous, Natacha Hachette-Cutty. C'est quoi reconstruire une féminité qui ne s'adresse plus aux hommes ?
Alors, on peut dire que dans la culture lesbienne, parce qu'il y a là aussi il y a des cultures, il y a des codes de genre qui se nomment sous les termes de butch femme, par exemple. Donc ça, c'est des termes évidemment anglo-saxons. Et l'idée étant pour les deux catégories, butch qui renverrait à une masculinité, femme à la féminité, mais au contraire, ça s'insère dans une critique des normes de la féminité et de la masculinité, dans un refus de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais pour autant, sans renoncer à un jeu autour des catégories féminin-masculin et ne pas s'adresser, ces catégories de genre, elles fonctionnent dans l'hétérosexualité aussi, dans des logiques de séduction liées au rapport homme-femme. Là, l'idée, c'est que ces logiques qui peuvent être des logiques de séduction s'inscrivent dans, une culture qui n'est pas adressée directement aux hommes. Et pour revenir aussi quand même par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, par rapport au débat sur le mariage qu'il y a eu cette année, oui, je trouve que le fait de dire qu'il y a eu une résurgence de la violence, c'est vrai, et une légitimité publique de la violence, qui a un retour du refoulé hétérosexuel sur cette scène politique.
Alors moi, juste une chose par rapport, Pascal disait, mon père ne m'a pas pardonné, mais qu'a-t-il à se faire pardonner ? Qu'a-t-il à se faire pardonner ?
Est-ce que vos deux compagnons qui n'acceptaient pas l'homosexualité de votre fils, est-ce que ceux-ci aujourd'hui l'acceptent, Anna Guillonne ?
Alors pour le premier, j'imagine que oui, je n'ai plus de contact avec lui, mais oui, puisqu'il a une relation toujours avec son fils, et il était tout à fait d'accord pour ce livre, donc je pense qu'il est partant pour faire passer le message, donc oui, il a dû pardonner. Pour mon second époux, oui, il le vit mieux, bien mieux. Oui, ils ont de très bonnes relations. Donc.
Natacha Hachette-Cutty, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir donc de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons qui vont faire leur coming out ? Est-ce qu'ils seront plus facilement tolérés dans la société qu'hier ?
Alors, je pense qu'effectivement, le débat sur la question du mariage, porté beaucoup par les classes moyennes, témoigne d'une plus grande, on va dire, acceptation du lesbianisme. Après, là où c'est encore difficile, c'est dans les classes sociales supérieures, par exemple, à forte adhésion religieuse. Tout à l'heure, vous parliez dans votre texte de religion séculière et des stigmates. Mais je pense que voilà, plus il y a une forte adhésion à la religion, plus il est encore difficile quand même de se faire entendre en tant que lesbienne ou gay, quelles que soient les religions. Et dans certaines classes populaires, ça, le film de Kechiche le montre, je trouve, assez bien, c'est encore aussi difficile.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin pour ce débat. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Natacha Hachette-Cutty, Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité, représentation de soi chez Payot. Et Anna Guillonne, Moi, homophobe, le jour où mon fils m'a révélé son homosexualité, aux éditions Michalon. Voici maintenant le mot du psy.
Bon, maintenant Isabelle, on pourrait déterminer un cadre pour nos rencontres. Tu serais d'accord pour venir ici une fois par semaine ?
C'est combien ?
70 euros.
C'est tout ?
C'est mon tarif.
Serge, selon une toute récente enquête de l'INSEE, la France compte désormais 720 000 familles recomposées, dans lesquelles grandissent 1,5 million d'enfants. Le gouvernement planche sur une nouvelle loi afin d'extraire les beaux-pères et les belles-mères d'un vide juridique. Alors en quoi est-il nécessaire, selon vous, d'accorder un statut aux beaux-parents ?
En effet, Guillaume, je crois que c'est avant tout une statue que la patrie reconnaissante devrait élever à la gloire de ces milliers de beaux-parents dont la place est bien ingrate. Les marâtres et les parâtres n'ont pas bonne presse. Si on conjugue cette réalité que les couples se séparent de plus en plus tôt au fait que 80% des résidences principales s'effectuent chez la mère, on aboutit à cette évidence que des milliers de beaux-pères prennent en charge quasiment à plein temps l'éducation, les devoirs, les sorties, les encouragements ou les réprimandes de leurs beaux-enfants pendant une bonne vingtaine d'années, sans aucun cadre juridique pour encadrer leurs pratiques. On peut citer par exemple un exemple de cette belle-mère qui un jour a foncé aux urgences avec un beau-fils au bras cassé et qui n'a jamais pu le ramener à la maison au motif qu'elle n'était ni la mère ni le père de ce mineur. Beaucoup de devoirs et peu de droits semblent être la réalité de ces parents de substitution.
Alors est-ce qu'on pourrait imaginer, Serge, un statut juridique unique du beau-parent ? Alors,
c'est ici que les choses se compliquent, évidemment, tant les situations de recomposition sont très différentes les unes des autres. Ça n'est pas pareil de rencontrer les enfants de son conjoint lorsqu'ils ont un an ou 15 ans, ni d'élever des enfants dont le père a quasiment disparu de la circulation ou est au contraire très présent et n'a aucune envie qu'on lui prenne sa place. On ne peut pas imaginer plaquer un statut unique sur des situations aussi complexes. De même, dans les familles homoparentales, en dehors des situations classiques de recomposition, existent des projets de coparentalité qui concernent par exemple un couple d'hommes et un couple de femmes. Ici, le coparent est présent dès l'origine, mais également n'a aucun statut. Bref, c'est la liberté pour chaque beau-parent de choisir de prendre la responsabilité d'un enfant dans un contexte familial qui y autorise, qui est fondamental. Il s'agit aujourd'hui d'imaginer quels aménagements juridiques pourraient le permettre, sachant que cette reconnaissance serait là pour soutenir et valider un engagement moral.
Et donc concrètement, comment leur accorder cette reconnaissance ?
Eh bien peut-être en s'attaquant aux questions plus basiques, les impôts, les allocations familiales, les cartes de famille nombreuses SNCF. La question de la succession par exemple est cruciale. Il serait bien sûr absurde d'obliger un beau-parent à léguer ses biens à ses beaux-enfants, mais s'il souhaite le faire, peut-on imaginer ne pas le considérer comme un étranger taxé à 60 %? Tout cela paraît peut-être bien terre à terre, compte tenu des énormes enjeux affectifs, mais prendre en compte ces réalités, c'est entériner le fait que la famille d'aujourd'hui, dans bien des cas, ne se réduit plus à un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. De même, dans les situations de séparation, le droit de visite doit être repensé sans imposer à l'enfant des liens qu'il ne veut pas investir. Mais face à un parent qui n'est pas très aidant à maintenir ses liens, aucun enfant ne devrait souffrir d'être séparé, malgré lui, de quelqu'un qui s'est occupé de lui et qui l'a aimé pendant des années.
Merci Serge Eiffez, à la semaine prochaine.
Le Grand Bazar. Le Grand Bazar de service public. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Service public, le Grand Bazar.
Bonjour Alexandre Lazerge.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Puisque l'émission du jour était sur le coming out, sortir du placard, vous avez fouillé dans votre placard.
Oui Guillaume, puisque faire son coming out donc c'est oser sortir du placard, j'ai pensé qu'il fallait faire le point sur les accessoires indispensables au placard de l'homme moderne. Et pour vous, vous qui êtes sensible à la mode Guillaume, j'ai trouvé un astucieux tourniquet à cravate électrique.
Ah bah oui, ça me manquait beaucoup Alexandre. Ça consiste en quoi ?
Alors, il s'agit d'un système très futé qui se fixe sur la tringle du placard et qui permet d'accrocher en un minimum de place jusqu'à 72 cravates, vous vous rendez compte ? Alors, le fonctionnement est très simple. Imaginez donc une sorte de petit carrousel avec 72 pattes ou crochets qui eux-mêmes tournent sur un rail coulissant. Sur chacune de ces petites pattes, on accroche une cravate donc. Ainsi, le matin, pour choisir laquelle porter, il suffit de les faire défiler toutes une à une avec un petit moteur électrique.
C'est effectivement très très astucieux, c'est indispensable. Ça se branche sur secteur ce machin ?
Non, ça marche avec 4 piles de 1,5 V. Et l'avantage, c'est qu'avec ce défilement de cravate, il peut se faire dans les deux sens. Si par exemple on hésite entre la jaune rayée ou la verte à pois, voilà. Et pour mieux se décider, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a même une petite lumière intégrée à l'appareil, c'est malin non ? Alors le tout coûte 45 € et se trouve tout bêtement sur priceminister.com. C'est un beau cadeau pour quelqu'un de coquet comme vous Guillaume.
Oui mais il reste un problème, savoir faire des nœuds de cravate, Alexandre.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi ceux qui ne mettent jamais de cravate, qui habitent à la campagne et qui partent à la chasse le matin de bonne heure dans la rosée. Or, après une matinée passée à tirer les lapins, il faut impérativement faire sécher sa veste barbour. Et le meilleur moyen consiste à utiliser un cintre chauffant, le hang air, du verbe to hang en anglais, qu'on peut traduire par pendre. Et le mot air, comme en français, quoi.
Ça marche comment, un cintre chauffant, Alexandre ?
C'est un peu comme un séchoir à cheveux. Il suffit d'enfiler plier le cintre dans la veste, puis de brancher l'appareil sur secteur. À ce moment-là, un ventilateur et une petite résistance chauffent l'air qui tourne dans le vêtement pour le sécher et enlever les odeurs de gibier ou de transpiration. Mais c'est la marque américaine Underwater Kinetics qui fabrique ce gadget pour une 60 € environ à commander sur des sites de vente en ligne. C'est astucieux, hein ?
C'est indispensable.
Mais attention, ce séchoir cintre pèse 2,5 kg.
Ah bah évidemment, voilà. On n'a rien sans rien.
Il faut donc de préférence une armoire solide de type normande, vous voyez. Mais en contrepartie, ce porte-manteau chauffant s'avère très costaud, puisque le crochet supporte un poids de 45 kg, ce qui permet de sécher aussi bien des cirés de marin trempés que des grosses combinaisons de ski ou de plongée. Voilà, le problème maintenant avec ce cintre chauffant, c'est que je sèche sur la chute.
Je sèche sur la chute, c'est une contrepétrie, hein, ça je crois, Alexandre, la semaine prochaine. Le placard aujourd'hui était rangé par Alice Jacquelin, Elodie Piel, Alexia Rivière avec Stéphanie Texier à la réalisation. C'est Thierry Dupin qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Éric Morin et Basile Bocquer. Demain, on se demandera comment sortir de la pauvreté. Juste après le flash, vous retrouvez Frédéric Lopez avec On va tous y passer. Bonne journée à tous.